Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 134.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Je vous enregistre ça alors qu'il y a une autre belle journée de pluie aujourd'hui qui nous fait apprécier le fait de pouvoir rester dedans et qui me fait apprécier le fait de pas avoir à sortir travailler, aller prendre le métro et m'entasser comme une sardine avec d'autres humains humides pour me rendre à mon lieu de travail. Alors, vive ma vie! J'espère que vous avez de la gratitude, vous aussi. Aujourd'hui, justement, parlant de gratitude, on a un bel épisode qui m'a été inspiré suite à la lecture d'une publication sur LinkedIn que Maude Lavoie avait fait. Puis Maude, elle n'est pas très, très active sur LinkedIn, fait que c'était vraiment un peu un hasard que je tombe sur sa publication puis que ça me touche autant. Puis en même temps, le pouvoir de savoir raconter des histoires sur les réseaux sociaux, hein, ça ne veut pas dire que parce qu'on a pris des pauses ou des choses comme ça, que les gens ne nous lisent pas. Mais bon, elle avait fait cette publication que je vais lire en début d'épisode, en début d'entrevue, en fait. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez la voir, là. Et puis, j'avais vraiment apprécié ce côté, cette partie de l'histoire de Maude que je ne connaissais pas parce que c'est une partie qu'elle garde assez privée et qui avait un lien avec, justement, toutes les adversités qu'on traverse en tant qu'humain, en tant qu'individu, en tant que personne. Et comment ça influence notre parcours professionnel, notre parcours de vie, notre parcours entrepreneurial. Et je trouvais que son histoire méritait d'être mise de l'avant. C'est la deuxième fois que Maude vient sur l'ambition au féminin. Et cette fois-ci, la première fois, c'était vraiment au niveau de son expertise avec Shopify. Mais cette fois-ci, je trouve ça vraiment intéressant de lever le voile sur qui est Maude à l'extérieur un peu de ton entreprise, mais qu'est-ce qui l'a amené aussi à créer cette entreprise-là selon les circonstances qu'elle a eues dans son passé ou dans sa vie. Et ce que je veux juste mentionner aussi, c'est vraiment pas un épisode sortez vos mouchoirs, etc. Là, vraiment, là, je trouve que Maude a une façon de parler de certaines circonstances ou de certains événements comme ça avec une force de caractère, mais aussi avec une maturité qui montre qu'elle a intégré aussi les leçons qu'elle avait trouvées pour elle-même. Pas qu'il y a nécessairement des leçons dans toutes les expériences de notre vie, là, mais j'aimais beaucoup la vision qu'elle apportait aussi pour réfléchir à ces circonstances-là. Donc, qui est Maude, si vous ne la connaissez pas? C'est une entrepreneure qui aide d'autres entrepreneurs à briller sur le web. Elle carbure à la Nitro, qui est le nom de son entreprise, et au chocolat. Elle aime coder, optimiser et accompagner. L'ordre varie selon les projets, mais l'objectif reste le même, amener ses clients à rendre leur boutique en ligne profitable. Elle a accompagné des centaines d'entreprises dans leur transformation numérique, mais aussi humaine, parce que le web, c'est pas juste une question d'être bon à l'ordinateur, c'est aussi de comprendre les futurs clients et leurs réflexes. Elle enseigne tout ça pour te rendre meilleur avec le numérique et te permettre de faire rouler ta business. En tant que développeur web, développeur avec un E, hein? C'est avec cette mission qu'elle a lancé Nitro en 2007 et depuis, elle a accompagné plus de 500 entreprises au Québec et en France dans plusieurs secteurs d'activité et avec toutes sortes de défis. Elle est certifiée Shopify Expert et elle est prête à vous accompagner dans votre réussite si vous êtes dans la vente en ligne, la boutique en ligne et que vous avez besoin d'accompagnement de ce côté-là. Donc voilà pour Maude et sans plus attendre, je vous laisse avec notre conversation. Salut Maude, bienvenue sur l'Ambition féminin. Comment tu vas aujourd'hui?
Ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation, Tatiana.
De la réinvitation, parce qu'on a déjà un super épisode où tu étais venue parler de commerce en ligne et de Shopify. Donc, naturellement, si vous voulez entendre Maude et que vous n'en avez pas eu assez avec son entrevue, vous allez pouvoir vous servir dans l'autre épisode. Et Maude, juste avant, bon, là, pour briser la glace un peu pour aujourd'hui, hein, pour commencer à se parler, dis-moi, c'est quoi pour toi l'ambition?
L'ambition, je pense que c'est d'avoir un but, un rêve, quelque chose que je vais aller le chercher. Puis parfois, ça n'a pas besoin d'être un grand but. Des fois, ça n'a pas besoin d'être grand-chose, mais c'est de se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire, qui fait qu'après ça, c'est un but peut-être un peu plus grand, un peu plus gros. Je pense que c'est toujours de rêver, de suivre les objectifs et d'y aller coûte que coûte. Puis des fois, tu vas l'avoir, des fois, tu ne l'auras pas, mais tu vas apprendre là-dedans, ce qui fait qu'après, ben, tu vas continuer de te relever puis continuer d'avancer.
Il y a comme une notion de jeu presque dans la façon dont tu en parles.
C'est vrai. Ben, faut dire que dans la vie, je suis une très grande gamer aussi. Fait que ça vient avec ça aussi. Puis je pense qu'en même temps, dans la vie, il faut prendre... Je fais les choses avec sérieux, mais j'aime aussi me voir le côté ludique ou le défi de faire quelque chose, d'aller quelque part, etc. Fait que il y a la notion de « suis capable, ok, go, j'y vais », une espèce de thrill qui vient avec.
Est-ce que t'es une personne compétitive, vu que t'es une gameuse? Je sais pas, est-ce que ça vient avec?
Oui, ça dépend sur quoi, là, mais oui, quand même. Moi, oui, je suis compétitive. T'sais, j'aime ça gagner, j'aime ça... dans les jeux de société, entre autres, area of expertise, quand on joue au Monopoly, les gens n'aiment pas jouer au Monopoly avec moi parce que moi, je suis vraiment déterminée à gagner. Il y a des choses sur lesquelles je suis très compétitive. D'autres, ben, je fais de mon mieux, puis c'est pas grave si je l'ai pas. Je le dis, des fois, ça me prend une semaine ou deux pour me convaincre que c'était pas grave, finalement, si je l'ai pas eu. Là. Mais oui, j'ai un côté compétitif quand même. Oui.
OK, j'aime ça. Donc, jeu, compétition, mais aussi une certaine légèreté avec tout ça. Puis, ça teinte un peu ta définition de l'ambition. I love it.
Effectivement.
Good. Ben, Maude, OK, je t'ai réinvité sur le podcast, puis j'en ai parlé un petit peu en introduction, bien évidemment, parce que... récemment, tu as fait une publication sur LinkedIn qui m'a vraiment touchée et que j'ai trouvé vraiment, c'était comme parfait pour illustrer, je sais même pas comment dire ça, c'est pas nécessairement du courage ou des choses comme ça, mais tu sais, des qualités que je trouve que je vois souvent chez des femmes entrepreneurs qui ont réussi à passer à travers des épreuves et dont l'entreprise fait une partie intégrante de ce cheminement-là. Puis c'est difficile à expliquer un petit peu parce que des fois, moi, j'ai souvent parlé de business comme safe space ou des choses comme ça, puis c'est pas toujours le cas pour tout le monde que la business est un safe space, mais je pense que la business est toujours un lieu de développement de soi. Et il y avait cette publication-là que j'aimerais lire pour mettre en contexte les gens, pour qu'ils puissent aussi entendre ces mots. Puis le lien va être dans les notes de l'épisode si vous voulez aller la lire. Mais si tu permets, je vais simplement lire ta publication et ensuite, on va revenir ensemble pour en discuter.
Parfait. Je te laisse aller.
OK. Donc, c'est une publication publiée sur LinkedIn le 31 mai. Donc, j'ai pleuré ma vie sur Fix You de Coldplay en 2005. J'ai reversé une larme sur la version 2023 revisitée de Cody Fry, mais pas pour les mêmes raisons. Tu te demandes pourquoi je te parle de ça? Tout part de la conférence de Farai Madzima, The Only One of Your Kind in the Room, que j'ai eu la chance d'entendre au WAQ. Ça m'a brassé pas mal et ouvert une porte que j'avais fermée à double tour depuis longtemps. Cette conférence parlait de l'impact d'être différent dans un groupe, que le fait d'être le seul pouvait éteindre notre potentiel. Chiffre à l'appui, Farai nous a expliqué ce qu'on peut se priver de diamants bruts en n'étant pas plus ouvert sur la différence, et que nous avons tous un rôle à jouer dans l'industrie des techs et dans la société en général. Je me suis sentie longtemps seule dans mon genre. Sa conférence m'a ramenée en 2007 au lancement de mon entreprise. La mode de 2007, c'était « une femme dans un milieu masculin, une jeune qui part en affaires sans réseau, une jeune adulte qui apprenait à vivre avec une maladie chronique, chose dont je n'ai jamais pratiquement parlé. Hier, en tombant sur la chanson de Cody Fry, ça m'a ramené à l'été extrêmement difficile de 2005. J'apprenais que je devais passer à une nouvelle série de médicaments. À 18 ans, c'est ton monde qui s'écroule. D'avoir le diagnostic qui te dit dans ta face « Tu ne seras jamais comme les autres. Tu es malade. Tu vas devoir te battre toute ta vie. » C'est aussi là que le vidéoclip de Fix You est sorti et ça a été mon refuge. Puis j'ai lancé mon entreprise en 2007. La vraie raison du lancement de mon entreprise, tant qu'à être dans les confidences, c'est que le salaire offert par l'agence de ma région ne me permettait pas d'en vivre parce que j'avais un médicament à payer. J'allais être dans le trou tous les mois à cause de ma maladie. Puis la mode de 2007 s'est dit « Not on my watch » et j'ai tout parti de rien. Je n'ai jamais donné la vraie raison parce que j'avais honte d'être différente et de l'avoir plus dur que les autres. J'étais en colère aussi parce que je savais que c'était injuste. Nitro a été un plan B, mais parfois je me demande si ce n'était pas vraiment le plan A. J'ai bâti Nitro avec plusieurs bâtons dans les roues, mais toujours avec courage et détermination. La maladie, les embûches, les refus, les « je peux-tu parler au programmeur », rien ne m'a jamais arrêté. La version de 2023 de Fix You par Cody Fry, c'est une ode à la mode de 2023. J'ai bâti une femme, une entrepreneure et une maman, forte, résiliente, mais surtout bonne vivante et empathique. J'ai créé ma chance et j'ai bâti un univers dont je suis si fière. À toi qui me lis et qui est différent, tu as plus de contrôle que tu penses. Tu peux changer ton étoile, surtout si tu l'aimes pas. Tu peux te trouver des alliés. Et pour tous les autres, rappelons-nous d'être bienveillants envers la différence et du pouvoir des mots.
C'est juste magnifique.
Merci. C'est parti, c'était un flux inspirateur. C'était une demi-heure. J'ai comme juste tout vomi dans mon Notion. Puis là, j'ai lu ça. J'ai fait « Je pense que c'est bon. Je pense que c'est correct. » La conférence de Farah est vraiment venue me chercher. Tu sais, ça fait plusieurs années que je vais au Web à Québec. J'écoute toutes sortes de conférences, rencontre toutes sortes de monde. Puis je suis sortie de la salle sur celle-là, là, j'étais tellement virée à l'envers. Ça m'a pris un bon 45 minutes juste faire comme « qu'est-ce que je viens de vivre là? » Parce que ça venait d'ouvrir des choses que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti puis revécu. Puis je m'étais dit après ça, une fois que j'ai comme mon buzz est passé, j'ai dit « faut que je fasse quelque chose avec ça. » C'était trop un beau cadeau à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et là, je me suis dit « Je veux faire une publication, mais je sais pas comment. » Puis là, j'ai laissé ça mariner, puis à un moment donné, la chanson, je l'ai vu passer dans mon TikTok, puis là, tac, là, ça a été comme pouf, l'explosion. Puis là, j'ai fait « OK, il faut que j'écris, il faut que je le fasse là. » On se fout de ce que j'avais à faire, je mets tout ça sur pause, j'écris, puis après ça, je ferai d'autres choses. Puis ça va donner ceci.
C'est fou quand même, parce que c'est tout comme un cycle prenait sens aussi, hein, le cycle de Nitro, de comment ton entreprise est venue à émerger, puis comment tu l'appellerais, toi, dans ton cheminement de vie? Tu sais, c'est-tu un moment d'intégration, un moment comme une partie de toi qui a comme accepté quelque chose, genre, est-ce que tu le vois? Je sais pas.
C'est un moment d'acceptation à ce moment-là, parce que, tu sais, avec les maladies chroniques, pour ceux qui vont nous écouter, quand non, c'est, on est dans les cycles que on accepte, on n'aime pas ça être de... T'sais, c'est une espèce de « OK, j'aime et j'haïs, c'est de la merde, ça va bien. » On est toujours un peu... Puis c'est des nouvelles étapes, des fois, que des fois tu perds des acquis ou tu perds des choses. Tu sens que le tapis te glisse en dessous des pieds, puis c'est très anxiogène, c'est très stressant. Puis j'étais un peu dans une passe comme ça au printemps 2023. J'ai consulté pour ça, puis... Tu sais, à un moment donné, quand ça s'est arrivé avec la conjoncture de tout ce que j'étais en train de placer, tu sais, j'ai fait... C'était un peu comme l'acceptation, la réalisation de... Puis de voir aussi tout le chemin parcouru. Que malgré toutes les embûches qu'il y avait eu devant moi à cette époque-là, je les ai toutes traversées, j'ai fait du mieux que j'ai pu à chaque fois. Je me suis réalisée là-dedans. Fait que c'est pas vrai que parce qu'on est rendu en 2023, que j'ai un peu peur de ce qui s'en vient en avant, que je réussirais pas à faire aussi bien que ce que j'ai fait avant. Ça va être différent, mais je suis capable de faire aussi bien, encore une fois. Je vais m'adapter, puis je vais trouver des solutions. T'sais? Je vais faire comme j'ai toujours fait, je vais m'adapter, puis je vais trouver des solutions. Je vais faire comme d'habitude.
Ouais, puis c'est ça qui m'a vraiment, justement, est allé me chercher dans ta publication, c'était de revenir à ce moment-là aussi où
bon, tu parles du moment à 18 ans où on t'a fait cette annonce-là, bon, il va falloir changer de médicament, puis ça semble avoir été un moment charnière dans ton histoire. Et ce moment de décision de partir ton entreprise, puis l'espèce d'espace, comme qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que, tu sais, t'es quand même, justement, une jeune adulte qui a pas nécessairement énormément d'expérience de la vie, slash encore moins d'avoir une maladie chronique, encore moins, genre, de lancer une entreprise. Fait que, je sais pas si t'es capable de nous ramener un peu à ce moment-là, puis comment ça a été pour toi, ce déclic-là, ou ce déclic était une période de temps, ou bref. Ça a été quoi pour toi, ça?
Mais tu sais, ça a été plusieurs chocs à chaque fois. T'sais, le choc d'apprendre que tu es malade, ça, c'était à comme 16-17 ans. Puis après ça, ben, tu commences, t'embarques dans des traitements. Puis là, ben là, les traitements, OK, on en rajoute, mais à un moment donné, c'est « ouais, ça marche plus », on retombe sur une autre catégorie de médicaments, qu'on appelle des médicaments d'exception, puis là, c'était plus compliqué, puis tout ça. Là, ça avait été comme le choc de « OK, attends un peu, là, c'est pas une joke. » Tu sais, ça a un impact pour toute ta vie.
Mm.
Fait que là, c'est pas juste prendre 2-3 pilules, ça va aller. Là. Fait que là, il y avait cette première réalisation-là que toute ta vie, il va falloir que tu t'adaptes, que tu fasses, que ça va être différent, que je partais de loin. Mm-hmm. Fait que il y avait ça. Puis, tu sais, après ça, tu sais, parce que je prenais des médicaments d'exception qui venaient avec des frais supplémentaires, ça faisait que là, quand je finis mon cégep, c'est le temps de me trouver une job. Mm-hmm. Encore des bâtons dans les roues. Puis, c'est ça. Ça m'avait tellement insultée qu'on me donne pas de chance. Puis il y avait un pouls là-dedans qui était un peu de la... Tu sais, j'avais en 2007, j'avais 20 ans. Mm-hmm. Tu sais, il y a un peu comme de la naïveté où t'es comme, ben, tu sais, je suis bonne dans ce que je fais, genre, je suis la meilleure de ma cohorte, on s'en fout de ça, mais tu sais, je me dis, je suis comme, crème, je suis bonne dans ce que je fais, puis je mérite qu'on me donne ma chance, puis c'est donc bien pas juste, puis c'est donc bien de la chenoute. Fait que là, aidez-moi donc, s'il vous plaît. Mais tu sais, c'était pas, tu sais, c'était une entreprise, tu sais, c'était corporate, fait que tu sais, il y avait pas, tu sais, moi, je fitais pas dans les cases.
Peut-être en programmation à ce moment-là ou
ouais, ben c'était en intégration front-end. Okay. Fait que dans le fond, c'est programmé pour que le site web il ait l'air beau puis qu'il fonctionne. Ouais. Puis tu sais, il y avait besoin de moi aussi, mais tu sais, le fait que c'était comme non, nous c'est comme ça puis c'est comme ça, puis tu sais, pas aucun accommodement. Je demandais pas grand-chose, mais c'est comme ben juste augmenter mon salaire juste un peu pour que je sois capable de payer mes médicaments parce que tu as une assurance privée que je suis obligée de prendre, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est ça, mais non. Puis je pense que c'est, tu sais, après coup, tu sais, je pense que c'est une des meilleures choses. Tu sais, je me suis broyée dans le bureau des RH solide. Tu sais, j'étais vraiment comme « Oh my God, mm-hmm. la vie est finie! » Puis j'étais revenue chez nous, mais là, le « Oh my God, ma vie est finie! » t'étais transportée en de la colère. Puis c'est comme « Ça se passera pas comme ça! » C'est pas vrai! Tu sais, je suis comme trop bonne pour que ça s'arrête de même ou que ça marche pas, tu sais. Non, ça marchera pas. Puis moi, mes parents, ils avaient une entreprise. Puis tu sais, je voyais la game. Fait que tu sais, sans savoir ce qui m'attendait, j'avais quand même une idée de c'était quoi être un entrepreneur, qu'est-ce que ça prenait comme temps, comme énergie. Puis je le savais que j'étais capable de le faire. Mais je partais, j'avais pas de contact, j'avais pas rien. Mais anyway, j'étais rendue au point où j'avais plus rien à perdre. J'avais tout à gagner. Fait que quand j'ai dit à mes parents, regarde, là, ça marche pas pour travailler dans cette entreprise-là, je vais essayer de me partir quelque chose. Là, sur le coup, là, ils sont venus s'énerver, tu sais, parce que là, c'est comme, ben là, tu sais, on veut pas que tu meures de faim, tu sais. Mm-hmm. Ben, regarde, je vais essayer, puis si ça marche pas, je me trouverai une job ailleurs, puis on s'organisera autrement. Mais je dis, anyway, en ce moment, je vais mourir de faim d'un bord parce que le salaire est pas assez élevé, ou je vais mourir de faim en restant chez vous, en me donnant, tu sais, donnez-moi 6 mois à maison, puis on verra, tu sais. Puis finalement, tu sais, je savais que j'avais les compétences, je savais que j'avais la discipline pour, fait que je me suis mis en action, puis j'ai fait, je vais faire du mieux que je peux, puis si ça marche pas, ben au moins j'aurais essayé, mais finalement, ce qui devait durer 6 mois a fait 16 ans en juin.
C'est fou, hein?
Wow. Tu sais, la mode de 2007, je pense que... je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Tu sais, je testais. Fait que, on m'aurait dit, ouais, tu vas voir, dans pas long, ça va faire 16 ans, tu fais ça, puis tu voudras rien faire d'autre. Je sais pas si je l'aurais cru. Tu sais, c'était comme ça, mais c'était comme trop, trop gros, trop loin. Mais finalement, c'était possible.
Penses-tu que parce que t'étais jeune, justement, puis que il y avait cette... Ben, tantôt, t'as parlé de naïveté. Ça t'a permis aussi de prendre des risque, entre guillemets, mais comme tu l'expliques, tu étais quand même très rationnelle dans le sens, oui, il y a un risque, mais l'autre option n'est pas vraiment...
L'autre option n'était pas mieux.
Mais pas viable,
oui, il y a beaucoup de naïveté, parce que aujourd'hui, je ne ferais pas ça, partir sans contact, sans rien. Je ne ferais pas ça. Mais oui, je pense que ma naïveté m'a très bien servi à ce moment-là. Et dans le fond, je n'avais rien à perdre, tout à gagner, fait que go. Puis j'étais dans... J'avais pas... J'avais juste moi à me gérer. J'avais pas d'enfant, j'avais rien. Fait que c'est à ce moment-là, j'avais rien à perdre. Puis j'avais pas le temps et j'ai pas eu l'opportunité d'avoir peur. Puis ça m'a beaucoup aidé. La peur en entrepreneuriat ou la peur en général dans la vie, ça t'empêche tellement de faire de choses parce que des fois que si, des fois que ça, puis ça te bloque. Puis tu perds des fois beaucoup de temps. Puis là, des fois tu vas le faire paraître, c'était pas si pire que ça, finalement j'ai eu peur pour rien. J'avais peur de rien.
C'est intéressant cette dimension-là parce que à quelque part, t'avais peur de rien, mais t'avais un danger réel généré par ta maladie.
Exactement. Oui, c'est ça, j'avais peur de finir comme une... ma peur quand j'étais vraiment jeune, et qui est encore un peu là aujourd'hui, c'était de me ramasser clouée d'une chaise roulante ou clouée sur une machine. Moi, je travaille sur les machines, je suis pas pluguée sur une machine. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose qui me faisait très peur, qui n'est pas encore arrivé, puis que je vais tout faire pour que ça m'arrive jamais, mais en même temps, je fais ce que je peux. Fait que c'est ça. Mais cette peur-là était beaucoup plus forte que la peur d'échouer au final.
Je comprends, puis...
C'est surtout ça, là.
Puis c'est ça aussi, quand je lisais ton article, ta publication, tu sais, le fameux concept de croissance post-traumatique, ou en anglais, ils appellent ça post-traumatic growth, qui est un peu le contraire de... le terme m'échappe, là, quand les gens sont... Ah, zut! Excusez-moi, mon cerveau a eu un petit bug. Mais quand on ressent des traumas et que là, ben, on n'est plus capable vraiment de fonctionner, mais il y a comme l'inverse aussi qui serait de trouver un mode de vie qui est encore meilleur que celui d'avant à cause d'une situation traumatique. Puis encore une fois, pour toi, c'est la maladie, mais pour d'autres personnes, ça peut être d'autres circonstances, des personnes qui vont vivre de la violence, que ce soit psychologique ou physique, ou tu sais, des événements comme ça dans la vie qui sont des événements chocs. Puis comment est-ce que pour toi, par exemple, ton entreprise t'a permis de créer ce meilleur milieu, outre, bon, c'est sûr qu'il y a l'argent aussi qui a commencé à rentrer, mais que finalement, ça crée cette bulle peut-être de protection ou même d'épanouissement dans les années qui ont suivi.
Ça a beaucoup été dans plusieurs périodes de ma vie, un peu comme un exutoire, dans le sens où je transformais tout ce qui me faisait chier, en quelque chose de vraiment plus positif. Et je me réalisais vraiment. Fait que c'est souvent Nitro pour moi, c'était, il n'y a pas de limite avec Nitro, sauf celle que je m'impose. Et mes limites psychologiques ou mes limites de Nitro sont beaucoup plus élevées que mes limites physiques, entre autres. Fait que c'était comme dans le fond, c'est un terrain de jeu ouvert, il y avait tout à faire, tout à monter, tout à explorer. Et moi, je suis tombée dans un timing intéressant où il y avait beaucoup de demandes pour le WEM. L'entrepreneuriat des jeunes, c'était pas encore bien à la mode comme aujourd'hui. J'étais vraiment au tout début de l'avant. Mais j'étais dans un bon timing pour me développer puis m'enraciner. Puis c'est ce que j'ai fait. T'sais, en même temps, j'ai vu des opportunités, je les ai pris. Puis je me suis dit, ben, je vais faire le maximum que je peux avec Nitro, tout en respectant quand même ma condition, puis en respectant comment... au niveau de mon physique, c'est ben important. Je prends soin de mon cerveau, mais je prends soin aussi de mon corps, de ma coquille, pour la faire runner le plus longtemps. Fait que c'est sûr que pour moi, j'ai vraiment tout canalisé, tout ce que je pouvais. Tout ce que je pouvais, j'ai mis tout dans Nitro. Je me disais, OK, je vais aller plus loin, je vais faire plus, je vais faire ça, je vais aller à telle place, je vais développer telle compétence, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis un autre exemple qui n'est pas du tout relié à la maladie, mais nous, on n'a pas été chanceux dans la première maison qu'on a achetée. On a acheté notre maison en novembre, puis en mars, il y avait de l'eau qui rentrait. Fait que nous, on s'est fait avoir. Les personnes qui nous ont vendu la maison étaient mal intentionnées, puis ils avaient caché qu'il y avait des infiltrations d'eau, puis le problème était vraiment grave. On a eu 5 dégâts d'eau en 5 ans. Ça a fini avec « tu lèves la maison, tu défais les fondations », mais entre-temps, je veux dire, c'est...
Ouais.
Ça a été vraiment terrible. Puis la première fois que ça nous est arrivé, on venait d'acheter la maison. Fait que là, on était déjà, entre guillemets, je dis comme « pauvre », parce que...
Ouais.
Tes économies, t'es mis dans mise de fonds, t'es mis dans la taxe de bienvenue, équipé à la maison, nanana, toute la patente. Fait que là, nous, on arrive, tu sais, ça va coûter 15 000 $ tu sais, qui là, c'est comme, Puis finalement, ça va pas été un problème. Puis je me souviens, quand c'est arrivé, tu sais, là, on était comme, là, on est dans chenoute, puis j'avais emprunté de l'argent à mes parents pour être capable de payer pour les rénovations, puis tout ça. Puis là, puis là, nous, ça avait plein d'autres impacts dans notre vie. Puis là, je me suis dit à ce moment-là, OK, ben là, je vais tout mettre dans les trous, puis je vais travailler plus, ou en tout cas, je vais aller me chercher des mandats plus intéressants, plus gros, plus payants pour me sortir de là, pour être capable de régler mon problème. Puis mon chum, à ce moment-là, il avait changé de job. Mm. Fait que là, ça nous a vraiment donné le coup de fouet, qui est comme, OK, non, on n'accepte pas ça, ça se passera pas de même. Puis qu'on a fait ça. J'ai un autre avantage, qu'on a réglé notre problème. On a réglé notre problème. Puis, tu sais, ça nous a amené. On a joué les cartes qu'on avait en main, on a bien bêté, parce que moi, à ce moment-là, j'ai commencé à faire du commerce en ligne, qui a été comme des ciments à ce moment-là, qui allait m'amener vers Shopify et qui m'amène où je suis aujourd'hui. Puis, même chose pour mon mari aussi, qui a fait la même chose. Puis, que la carte qu'il avait jouée à ce moment-là l'a aidé pour les autres jobs subséquentes. Fait qu'on a bien joué nos cartes, puis on est quand même assez fiers de ça. Même si, en toute transparence, j'aurais pu me sauver de ce trouble-là, de maison-là, je l'aurais faite. Parce qu'au travail de tout le reste, c'était comme la cerise sur le sundae. Là.
Je comprends, puis c'est ça me rappelle, c'est le mot stress post-traumatique que je cherchais tantôt, là. C'est super clair. Mais effectivement, hein, puis je pense que ce qui revient aussi, c'est ce que tu disais, il y a eu comme un moment de refus, ça se passera pas de même, ou non... Nous, on va pas, tu sais, on va pas devenir... Je sais pas, j'hésite à prendre le terme victime, mais c'est pas comme une question de s'auto-victimiser, mais tu sais, il y a le moment où est-ce que tu décides que, ben là, il faut juste trouver une solution, là, maintenant, pour les prochains jours, et puis on verra où est-ce que ça nous mène par la suite. Là.
C'est ça. Ben moi, j'ai été élevée de même. Il y a pas de problème, il y a que des solutions. Ma mère, elle me répétait ça constamment. Quand j'étais plus jeune, tu sais, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Fait que, tu sais, j'ai été élevée comme ça, ce qui fait que quand on arrivait devant un problème, c'est comme, bon, OK, le problème fait vraiment suer, je sac un peu, puis après ça, OK, là, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sort? C'est quoi la solution? Puis j'en ai marié un qui est pareil comme moi. Fait qu'on est toujours en train de trouver, il n'y a pas de problème, rien que des solutions. Tu sais, on rumine, on bougonne un peu, mais on va trouver la solution, puis on va s'organiser pour être bien aussi. Au final, au travail de tout ça, trouver la meilleure solution, la meilleure option. Puis en même temps, je pense que c'est ce qui fait que je suis une bonne programmeur aussi, parce que moi, il n'y a jamais, tu sais, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de bug informatique, il y a juste des solutions.
Il y a juste un petit chemin à trouver pour contourner l'effet qui a été fait ici. Puis à travers tout ça, comment, parce que je pense que, tu sais, il y a quelque chose de super louable dans tout ça, puis ça fonctionne super bien. Puis il y a des gens qui sont extrêmement dans cet état d'esprit-là, hein, de toujours vouloir produire puis jamais rentrer dans la problématique, mais qu'après ça, ils accumulent comme le trauma à l'intérieur d'eux, puis continuent à le perpétuer, tu sais, soit en, bon, je sais pas moi, je sais pas si vous avez maintenant une peur atroce des infiltrations d'eau.
Moi, il y a une odeur de sous-sol, je viens vraiment mal. Tu sais, physiquement, là, mon corps, il est comme, non! Une odeur de sous-sol, oublie ça. C'est fini.
Je suis capable de...
C'est vraiment venu me forcher. Vraiment.
Mais est-ce que t'as comme des... Tu sais, est-ce qu'il y avait des façons pour toi de prendre soin de toi aussi à travers... C'est ces moments où est-ce que t'es comme, OK, il faut être courageuse, il faut être dans la solution, il faut être dans la détermination, il faut qu'on avance, tout en restant, tu sais, comme de prendre soin de Maud, de la personne qui est en train de vivre ces choses-là.
Ouais. Moi, j'ai quand même le bonheur facile, dans le sens où ça prend pas grand-chose, en fait, ça prend pas grand-chose pour me mettre en colère, mais ça prend pas grand-chose pour me mettre de bonne humeur non plus. Fait que ça a quand même ses avantages.
Yes.
fait que l'idée, c'était toujours de trouver, OK, bon, on va faire ça, ou tu sais, je sais pas, tu sais... Moi, entre autres, tu sais, aller au restaurant, manger des sushis, là, J'ai une mauvaise journée, le manger des sushis, ça règle tout.
All right! On sait comment faire plaisir à moi.
Oui, c'est ça, tu sais, ou écouter un de mes albums. Tu sais, je passe beaucoup, je pense, de mes émotions dans, par la musique. Mm-hmm. Des fois, juste écouter le, la colère, l'écoute l'album de Rammstein, il me semble que mm-hmm. ça canalise un peu, tu sais, ça aide. J'essaie de ne pas rester pris aussi avec l'émotion. Je trouve que les gens, des fois, ils restent beaucoup pris à j'ai respiré avec leur bibitte, là, mais des fois, il faut que tu le dises, faut que tu le parles, tu sais, faut que tu sortes l'émotion. Puis la garder en mm-hmm. dedans, c'est vraiment pas bon sur le long terme. Fait que moi, je l'ai canalisé, je l'ai dit quand je suis pas contente, je l'ai dit quand je suis contente. Mais, tu sais, je suis genre à me faire beaucoup de petits plaisirs. T'sais. Fait que mm-hmm. moi, tu manger sushi ou, tu sais, des fois, là, OK, je vais aller me chercher une crème glacée au chocolat avec un extra caramel fleur de sel. T'sais, là, je suis comme,
bah,
tout va bien aller. T'sais.
Ça me donne envie. Puis, puis là, c'est ça, tu sais. Puis c'est ça qui est intéressant aussi dans ta publication parce que tu parlais aussi du fait que t'as gardé ta maladie quand même cachée parce que tu voulais pas que ça fasse partie de ton histoire.
Ouais, je veux pas l'étiquette. Tu sais, l'étiquette de c'est la fille qui fait du Shopify, qui est malade. Ou tu sais, ça, là, je veux pas ça. Je veux pas que les gens me prennent en pitié. Je veux pas que les gens aient peur que je sois pas capable de faire la job. La seule personne qui décide si je suis capable ou pas de faire quelque chose, c'est moi.
Love it.
Pour le reste, il n'y a personne d'autre qui a à juger de ça. Je sais très bien ce que je suis capable de faire ou pas. Je suis très honnête envers mm-hmm. moi-même. Je ne suis pas du genre à me bullshiter. Et oui, si je me bullshit, ça ne marchera pas. Fait que je ne me bullshit pas. Ou là, en tout cas, j'essaie de ne pas me bullshiter le moins possible. Fait que c'est sûr que moi, cette étiquette-là, j'en avais très peur. En me disant, je ne veux pas... d'attirer la pitié. Ah, oh, mm-hmm. pauvre petite. Non. Tu sais, ça fait partie de mon histoire. Ma maman me disait tout le temps, ben, je disais comme si elle était morte, mais t'es encore en vie, là. Mais elle me dit tout le temps, tu sais, on a toute notre lot de merde. Dans le sens qu'il y a toujours mm-hmm. quelqu'un, tu sais, toi, c'est ça. Quelqu'un d'autre, ça va être autre chose dans sa mm-hmm. vie. On a toute notre affaire, notre boulet. On en a mm-hmm. tout un. Puis l'idée, c'est de faire le mieux qu'on peut avec ce boulet-là, de s'organiser avec ce boulet-là pour qu'il nous dérange le moins possible. Mais on a tous quelque chose. Il n'y a personne mm-hmm. qui est parfait. Puis qui a pas... puis même s'il a l'air de ne pas avoir de problème, tout le monde a des problèmes. Puis c'est vrai qu'il y a des gradations, mais on a tous quelque chose.
Mm-hmm.
Fait que c'est de faire le mieux avec ce qu'on a de positif puis d'arrêter de focusser sur ce qui ne va pas bien. Puis focusser sur qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux ou pour que ça aille bien, que je sois bien. Puis de tirer le maximum de mes cartes en main. C'est tout.
Ouais, puis ça, c'est bien sorti dans cette... je sais qu'on revient tout le temps à la publication, mais encore une fois, parce que pour moi, quand je l'ai lu, c'était vraiment comme, OK, il y a comme quelque chose qui est venu se cristalliser ou du moins, genre, prendre forme. Puis d'avoir ces mots-là écrits là, maintenant, devant ta communauté, est-ce que... Ben, la façon dont je sens que tu l'avais amené, c'est que cette conférence-là aussi que tu avais entendue a comme réouvert le lieu de service, de parler aussi de cette histoire-là ou de certaines parties de ton histoire. Parce qu'il y a ça, il y a ton dégât d'eau, mais il y a aussi le fait que, tu sais, je suis sûre que tu en as vu des vertes et des pas beurs en tant que femme en tech, tu sais. tu sais, ton histoire avec ton employeur aussi qui était, on s'entend, tu sais, c'est assez ableist, là, tu sais, dans le sens que, genre, il n'y a pas... En plus, là, maintenant, on parle beaucoup plus d'inclusivité puis d'essayer d'être plus juste dans les milieux de travail, mais ça, c'était vraiment comme... Désolé, genre, tough luck for you.
Ouais, arrange-toi. C'est ça. Aujourd'hui, je pense que ça passerait moins bien, mais les gens sont plus conscients que, ben, tu sais, de s'adapter. Puis de s'adapter, ça permet à la personne qui a un handicap ou autre de donner le meilleur d'elle-même. Puis en même temps, on serait fou de se priver des compétences, de l'expertise de quelqu'un parce qu'on veut pas s'adapter. On a tout quelque chose à amener sur la table.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis là, maintenant que tu l'as nommé, est-ce que tu sens que c'est un poids en moins ou que... Je sais pas,
c'est
moi.
C'est une étape de plus, dans le sens où, c'est toujours... Une maladie chronique, c'est un pas devant, deux pas derrière. Fait que là, tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait quelques pas devant, mm-hmm. puis de continuer dans ma journey, dans mon cheminement là-dessus. tu sais, c'est rien passé de terrible au fait que j'aille nommer que j'ai une maladie, tu sais, puis c'est bien correct. Puis, tu sais, je me rends compte que finalement, tu sais, dans mon parcours puis dans ma vie, j'ai jamais regretté quoi que ce soit. Parce que je me dis, chaque petite affaire qui est arrivée m'a amenée là où je suis aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ma maladie, j'aurais possiblement pas été en informatique, j'aurais possiblement jamais été entrepreneur, j'aurais jamais rencontré mon mari, j'aurais jamais monté Nitro, tu sais, tout ça ne serait jamais arrivé, mon fils serait pas là non plus, tu sais, tous ces éléments-là font que, ben, si c'était pas ça, ça serait pas arrivé. Fait que, oui, ça me fait suer, oui, j'aimerais ça l'avoir plus facile des fois, puis de moins avoir à me battre pour certaines choses, mais en même temps, ce que j'ai acquis là, ce que j'ai fait, j'en suis tellement fière, je le chéris tellement, là, que je me dis, ben écoute, tout ça serait pas arrivé, fait que, écoute, t'as fait du mieux que t'as pu, puis ça a donné ça, c'est quand même pas si mal, finalement.
C'est quand même pas si mal, parce qu'on s'entend, là, tu travailles avec une équipe, là, parle-nous un peu de où t'en es rendu avec Nitro, puis tout ce qui a évolué.
Bien, au niveau fiscal, moi, je suis toujours toute seule, travailleur autonome, mais j'ai mon adjointe, mon deuxième cerveau, qui est si extraordinaire. Écoute, elle est fantastique, c'était Josiane. Et je vais travailler en collaboration avec d'autres entreprises, soit spécialisées en pub, spécialisées en marketing, spécialisées en SEO aussi. Mais j'ai goût de dire, j'aime que tout le monde soit chacun chez eux, parce que moi, ça m'enlève un poids, un stress de gestion. Puis ça permet que quand je propose un mandat, ben les gens, ils ont le goût de le faire. Parce que soit c'est un mandat qui va avec leurs intérêts, qui va avec leurs compétences, ils ont le goût de donner leur 110%. Fait que moi, j'ai décidé d'aller avec cette formule-là, qui est plus simple, en tout cas, à mon avis, qui pour moi est plus simple, fait qu'il me permet, moi, de me préserver, mais qui permet quand même d'aller donner super de bons résultats, puis que ça se passe bien. Fait que...
C'est comme une agence décentralisée...
Si on veut, si on veut, oui. Je vais aller chercher les meilleurs éléments, puis en même temps, c'est pour mon client, c'est mieux, parce que mon client, je vais lui donner seulement ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin, des fois, de l'équipe de 10 personnes. Ouais. Des fois, ça arrive qu'on a des gros mandats puis qu'on a plusieurs personnes impliquées. Mais des fois, non. Fait que je donne vraiment le meilleur, puisque ce dont la personne a besoin, ce dont l'entreprise a besoin, puis c'est parfait comme ça, tout le monde est gagnant. T'sais. Puis c'est ça. Sinon, ben moi, je suis vraiment spécialisée, je ne fais que du Shopify. J'ai comme Obélix, je suis tombée dans, j'ai découvert le monde de Shopify, je suis tombée dans la soupe de Shopify et je ne veux pas en ressortir. Puis j'ai vraiment développé mon expertise là-dedans, puis j'adore la plateforme, puis tu sais, j'ai vraiment bâti mon expertise, puis mon idée c'est d'avoir réponse à tout. Tu sais, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Fait que tu m'arrives avec une question, moi la trouver la réponse si je ne la sais pas. Puis, tu sais, j'ai vraiment développé un créneau qui est, oui, en conception, donc faire de la programmation encore, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé le côté plus formation puis accompagnement parce que je veux aider les entreprises à réaliser l'importance de leur boutique en ligne, le rôle qu'elle a joué, puis à quel point, eux, c'est important qu'ils soient à l'aise et efficaces dans la gestion de leur boutique en ligne. Parce que j'ai beau leur faire un char de course, s'ils savent pas le piloter, ça ira pas bien loin.
Ouais, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi puis mon chum, on regarde les documentaires de F1. Je sais pas pourquoi on est tombé là-dedans, mais on a...
Écoute, moi aussi, j'adore les... Puis c'est super... Écoute, nous, on est des fans de F1 aussi. On trippe. Puis tu sais, non, mais c'est intéressant, tout cet univers-là, tu sais.
Ben vraiment.
T'as beau avoir le meilleur pilote, tu sais, dans un autopoche.
C'est ça.
Il ira pas loin. Ils sont frustrés. Et à l'inverse, tu peux avoir une super de bon auto, mais si t'as un mauvais pilote...
Ouais, il y a tellement de politique là-dedans aussi. En tout cas, c'est rare que je rencontre du monde qui utilise ce genre de métaphore, mais
moi, je suis une très dans la métaphore. J'aime ça, j'aime faire des images pour que les gens, après ça, ça leur colle à la peau, ça leur reste dans l'esprit.
C'est clair. Est-ce que tu considères que, bon, tu sais, parce que ta famille d'entrepreneurs, tu sais, tes parents étaient entrepreneurs, ils t'ont inculqué des super belles valeurs puis une belle tolérance à l'adversité, justement. Est-ce que toi, tu sens que, ben, je suis sûre que oui, là, mais comment est-ce que tu sens aussi que dans les 16 dernières années, t'as aussi développé ou, tu sais, travaillé sur des parties peut-être soit de... Puis je veux pas dire de ta personnalité, parce que
whatever, genre, mais peut-être de ton de ta réaction psychologique face à ce que tu as retrouvé en entrepreneuriat ou dans le monde de la tech que tu t'attendais peut-être pas à rencontrer de cette façon-là ou que tu as dû t'adapter.
C'est sûr que, puis j'en parle un peu dans le message, des fois, je peux-tu parler au programmeur en disant, je peux-tu parler au gars qui programme? Hey, ça, ça venait me chercher! Je bouillais l'autre bord du téléphone. Fait ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas. T'sais, c'est sûr que quand t'es dans la bulle de l'école, puis que, oui, dans ma cohorte, il y avait plus de garçons que de filles, mais tu t'attends à ce que, dans le milieu du travail, les gens sont justes et équitables? Non. Fait que ça, je trouvais ça difficile des fois où, tu sais, j'étais une jeune femme qui partait en affaires, puis tu sais, comme je dis, j'étais au tout début de la vague où il commençait à avoir des jeunes, des millennials qui se partaient en entreprise, là. Fait que tu sais, j'étais peut-être comme, je vous dis des fois, comme 2 ou 3 ans trop tôt des fois, que c'était comme, t'es une petite jeune, tu sais, t'es...
Puis t'allais-tu les voir en personne ou t'étais comme au téléphone?
À l'époque,
ou comme...
oui. Oui, à l'époque, j'allais voir en personne, puis tu sais, c'était là, un recul, mais oui, on allait rencontrer en personne et tout ça. Puis des fois, tu sais, je le sentais qu'il doutait. Sauf qu'au fur et à mesure que je faisais des mandats, là, tout d'un coup, ah, là, j'en ai fait certains. Puis des fois, c'est des mandats qui étaient bien ordinaires, mais juste parce que ça a donné que la personne que j'avais devant moi respectait l'autre personne. Ah, là, tout d'un coup, tu sais, ça donnait un autre regard. Tu sais, tout d'un coup, j'étais plus compétente parce que j'avais fait telle affaire puis qu'il aimait telle personne. T'sais. Fait que j'ai fait mes classes tranquillement, pas vite. T'sais, aujourd'hui, j'ai goût de dire... ben pas j'ai plus rien à prouver, c'est pas vrai, là, mais tout le bagage que j'ai fait, toute l'expérience que j'ai parle un peu pour moi. Mm-hmm. Puis en même temps, il y a un bout aujourd'hui où je suis plus... Ben, regarde, si tu me considères pas, si tu penses que je suis pas assez professionnelle, je m'en fous un peu, en fait. Moi, je sais ce que je vaux. C'est ça. T'sais, moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis capable de faire. Je sais où j'excelle et je suis compétente. Si tu le vois pas, je peux pas te forcer à le voir.
It's a you problem.
Oui, c'est ça. Puis moi, il y a un de mes mentors, quand j'ai commencé mon entreprise, qui m'avait dit, tu sais, le client a le droit d'avoir tort. Ça, là, ça m'a porté longtemps parce que ça m'a fait réaliser qu'à un moment donné, garde, moi, j'ai beau faire la split en avant, si tu penses que je suis pas capable puis que je serais pas la meilleure, ça sert à rien que je me batte. Ça sert à rien que je dépense de l'énergie pour ça. Mon énergie va être mieux utilisée à faire d'autres choses, à aider d'autres clients qui voient que je suis bonne dans ce que je fais puis qui vont être vraiment fiers au bout. Puis peut-être que dans 4, 5 ans, tu vas le regretter finalement de pas avoir travaillé avec moi. Mais tu sais, c'est pas... Rendu là, ça m'appartient plus. Fait que moi, je fais toujours le meilleur de mon travail. Je donne toujours le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais. Puis écoute, si c'est pas assez, ben écoute, OK, va voir ailleurs. C'est correct.
J'aime ça. Puis aussi ce que tu disais par rapport au fait que t'étais trop jeune ou puis que t'étais une femme en plus, mais tu sais, l'âgisme, ou surtout en tech, c'est intéressant parce que il est dans tous les sens. Hein? Genre là, t'étais trop jeune pour être une bonne entrepreneur, mais des fois... Le monde dans les bureaux, ils sont trop vieux pour comprendre la tech qu'ils ont besoin pour avancer. Fait que, tu sais, c'est comme...
Puis là, un jour, je vais arriver au fait où je vais être une petite madame qui fait du... un moment donné, moi, du bord des têtes grises, tu sais. Fait que là, ça va être de combat. Tu sais que c'est pas parce que t'as des cheveux blancs ou t'as la tête blanche que c'est pas de quoi tu parles et t'es pas compétent puis que tu t'es pas gardé à la page. Tu sais qu'il y a des boomers qui sont peut-être pas capables de faire certaines affaires parce que... Bon, ils l'ont pas appris, peu importe, puis c'est pas négatif, ils l'ont pas appris, point, et qui ont le cliché de la tête blanche qui sait pas ce qu'il fait. Mais moi, quand je vais arriver là-bas, je vais continuer de savoir ce que je fais, tu sais. Fait que,
c'est
pas de petite madame qui fait du web, ça marchera pas. Là.
Ah, super intéressant. Ça... Bon, tu l'as dit tantôt, je pense que la mode de 18 ans, elle devrait être fière de toi. Je pense que tu es fière de la mode de 18 ans.
Je pense qu'après, comme « Wow! On a fait ça! On a été capable de faire ça! » Ce qui avait l'air si sombre 18 ans, finalement. 18 ans plus tard, parce que j'en ai 36
maintenant. Oui, c'est ça. Hein? C'est des cycles, c'est fou.
C'est des cycles. C'est comme 18 ans plus tard. Crime, on s'est bien débrouillé, tu sais. Puis, tu sais, j'ai fait le bon pari aussi, financièrement parlant, de partir à mon compte. En toute transparence, je suis beaucoup mieux payée à mon compte que si j'avais resté en emploi, employée.
Oui, puis en plus, c'est pas comme si ton salaire y augmentait de façon proportionnelle à tes compétences. bien non, souvent en entreprise.
Ça. Non, c'est ça. Savoir selon une échelle salariale. Ça fait que moi, l'échelle salariale, c'est moi qui décide.
Yes, I love it. Peut-être la dernière question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que, bon, ce move-là a changé ta façon de voir le monde ou de voir ta vie?
J'écoute, c'est comme plein de trucs qui se bousculent dans ma tête en même temps. Je pense que pour moi, c'était que je, tu sais, pour moi de faire ce move-là, puis de, si on regarde aujourd'hui, tu sais, j'ai toujours fait au mieux. J'ai toujours eu la capacité de bien déterminer quelle allait être la meilleure solution pour moi. J'ai toujours eu une espèce de d'intuition, appelle ça comme tu veux, mais ça y est. Très aiguisé. Mon intuition est très aiguisée. Puis, tu sais, je me dis, après coup, j'ai toujours bien bêté, pratiquement toujours bien bêté tout le long. Fait que ça, c'est, tu sais, l'intuition, ta petite voix a tout le temps raison. A tout le temps, tout le temps, tout le temps raison. Fait que, tu sais, de continuer de me truster, je pense que c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est important, tu sais, puis qui m'a porté tout le long, puis que je continue de cultiver. Je suis contente de voir l'évolution du monde aussi envers l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que j'aime autant de jeunes qui sont partis en entreprise, c'est des jeunes adultes, puis je trouve ça tellement fantastique. Ils ont peur de rien, ils n'ont pas d'attache, c'est comme go all in, puis ça fait des magnifiques succès extraordinaires. Puis on a besoin de ça, on a besoin d'une relève entrepreneuriale, on a besoin de projets innovants au Québec, au Canada, dans le monde. Fait que ça, je trouve ça extraordinaire. Puis, j'aime voir qu'aujourd'hui, on essaie, il y a encore du travail à faire, mais qu'on essaie de donner une meilleure place aux femmes dans le domaine de la programmation, dans le domaine des techs. Tu sais, il y a du chemin à faire. Moi, je trouve qu'on s'améliore tranquillement, pas vite. Puis, je me dis, plus il va y avoir de femmes, plus on va changer un peu la donne. Puis, tu sais, une femme ne programme pas. En fait, une femme et un homme réfléchissent pas de la même façon. On va pas attaquer les problèmes de la même façon, on va pas voir les solutions de la même façon. Fait que je pense que le mieux, c'est d'être capable d'avoir un équilibre dans les équipes, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, parce que c'est ça qui va faire qu'on va créer des meilleures applications, des meilleurs outils, qu'on va développer des solutions pour aider à ce que le monde, en tout cas, aille mieux ou soit mieux automatisé ou whatever. Ouais, fait que je pense que c'est surtout ça que j'en retire jusqu'à maintenant.
Ouais, puis aussi, je pense que c'est pas... Tu sais, souvent, je pense que les gens, ils font des... Oh, la parité homme-femme en tech, c'est que toutes les femmes travaillent au design et à l'intégration, puis tous les hommes travaillent en programmation. Tu sais, c'est pas ça que t'essayes de dire, là. C'est vraiment non. Comme... Vraiment du cross, tu sais,
Oui, c'est ça, c'est que dans les équipes de programmation, t'as autant de gars que de filles. Parce que je pense que vu qu'on réfléchit pas de la même façon, on n'adressera pas des problèmes ou des solutions de la même façon, je pense que tout le monde est gagnant, parce que tout le monde travaille ensemble. Puis que selon moi, il n'y a pas de profession, en tout cas dans le domaine des techs, il n'y a pas de profession qui devrait être genrée. Il y a de la place autant pour les hommes que pour les femmes, puis que en même temps, c'est une femme qui écrit le logiciel pour envoyer les hommes à la Lune. Fait que, on est capable, là. Puis en fait, pendant longtemps, il y avait plus de femmes que d'hommes dans la programmation. Oui. Puis ben, ça l'a changé. On sait pas trop pourquoi, mais en tout cas. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, dans tous les domaines des techs, les deux côtés, les deux visions, tout le monde mérite d'aller chercher le meilleur. Fait qu'une diversité, ça enlève rien à personne. Tout le monde en y gagne.
Je suis tellement d'accord avec toi. Full love pour tout ce que tu nous as raconté, Maude. Qu'est-ce qui s'en vient pour Nitro?
Écoute, je suis en train de rebrasser un petit peu mes services, toujours dans Shopify, mais je vais vraiment travailler pour les entrées, ça va quand même bien, mais c'est plutôt après mes autres services. C'est que je vais racheter des nouveaux services pour mes clients qui sont actuels, pour leur continuer de les aider puis proposer une formule le fun puis attrayante. Sinon, ben là, bientôt, ça va être l'automne. Fait que là, je sais que là, on vient de commencer l'été. En fait, l'été, ça commence le 20, fait que, en tout cas, on vient de commencer l'été.
Demain.
Mais il faut préparer l'automne pareil, parce que c'est pour les e-commerce, ça commence, c'est septembre. Les gens commencent à regarder leurs affaires pour le temps des fêtes. Fait que ça va être le retour de ma formation qui s'appelle Niveau 9 pour le temps des fêtes, pour préparer les entreprises sous une formule différente cette année. Fait que ça va être intéressant pour ça. Puis sinon, je réfléchis aussi là, j'ai fait des capsules vidéo où je vais illustrer dans le fond des problèmes puis de donner des solutions, des trucs pratico-pratiques, parce que moi, mon but, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai une capacité physique que je peux pas prendre plus de clients, mais je vais trouver une façon de continuer de donner des trucs puis des astuces à ceux qui peuvent pas travailler avec moi parce qu'il y a plus de place dans l'horaire. Fait que je continue de faire des capsules vidéo. Je me suis fait faire un super de beau vidéo d'intro que je suis tellement fière en début d'année. On a vraiment eu du fun. Fait que là, en même temps, c'est un prétexte pour l'utiliser, hein? Mais en même temps, de passer du contenu intelligent au travers de tout ça, c'est ça.
C'est clair. Oh my God! C'est excitant, c'est le fun, c'est ludique.
Oui. Ben, en même temps, on apprend mieux, je pense, quand c'est le fun.
Ben oui, puis quand on a des projets qui nous allument, hein, tant qu'à avoir notre propre business, aussi bien travailler sur des trucs qu'on trouve cool.
Ah oui, écoute, on ne sera pas travailler sur des affaires plates. Il y a des affaires qu'on ne s'en sort pas, mettons les taxes et la paperasse, mais pour le reste, on a bâti, tu sais, on se part en affaires parce qu'on veut changer le monde, parce qu'on veut, tu sais, aussi bien avoir du fun au travers de tout ça, puis la vie est trop courte pour faire des affaires plates tout le temps.
Hell yeah! C'est les meilleurs mots pour terminer cette conversation, je pense. Dis-nous où tu veux qu'on te suive. Où es-tu le plus actif?
Sur TikTok. Écoute, je suis une milléniale qui a bien trop de fun sur TikTok. Beaucoup sur TikTok. Sinon, j'ai mon infolettre aussi où je vais donner des trucs deux fois par mois. L'infolettre des trucs Nitro. Fait que tous ceux qui ont des boutiques en ligne avec Shopify puis qui veulent des trucs et des astuces, c'est là que ça se passe. Puis sinon, ben je suis sur Facebook aussi. LinkedIn. Quand j'ai
quand t'as une inspiration comme
quand
ça, une chance que tu l'as mis sur LinkedIn puis que je l'ai vu.
Ouais,
je tiens juste
à
dire ça.
C'est ça. C'était la bonne étoile, tu vois. Ouais, c'est ça.
C'était pour moi, ce message. Good. Maud, on va mettre tous les liens comme d'habitude dans les notes de l'épisode. Puis, on encourage tout le monde à aller découvrir ton super travail. T'es une pro des pros, alors tu sais de quoi tu parles. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans le pipeline pour toi, ce qui est génial. Merci encore d'être venue à l'Ambition féminin. C'était vraiment cool d'en savoir un peu plus sur ton histoire, sur ton parcours, puis sur ta belle philosophie de l'entrepreneuriat et de la vie. Alors, merci encore.
Merci.